Bon, là, on a deux questions. Bon, c'était rapide. Je commence par la question de la déforestation. Oui, je crois que ça, c'est historique à Rio. Et d'ailleurs, bon, c'est même le parc national de Tijuca, le parc central, bon, tout le monde le connaît, par exemple, par la grande statue là, du Christ, c'est au cœur de ce parc. Il était quand même au milieu du 19e siècle, de plantation de café. Et c'était d'ailleurs moins par les questions des inondations, c'était plutôt par l'accès à l'eau. Parce que même actuellement, la 10% de l'eau de la ville vient quand même de ce parc-là. Alors, la question du reboisement de la ville, il s'est posé même historiquement depuis la moitié du 19e siècle. Et c'est vrai, il faut le dire, que depuis une vingtaine, une trentaine d'années, il y a quand même des projets assez intéressants. Et on voit des photos des 70, 80 et actuellement, il y a plus. La couverture quand même de forêt, elle a quand même élargi, elle a augmenté, surtout parce qu'il y a un projet qui s'appelle reboisement d'entraide, je sais pas, bon. On paye des habitants, par exemple, des favelas pour reboiser aux alentours de ces quartiers à partir d'une idée un peu d'éducation environnementale. Ça marche parfois pas trop, mais il y a quand même une certaine réflexion. Mais je crois qu'en ce qui concerne l'inondation, Rio, c'est quand même un site géographique extrêmement complexe, extrêmement spécifique, avec quand même des collines et des montagnes assez importantes qui peuvent toucher, dépasser 1000 mètres. Et la ville était presque toute entière formée par des lagunes, des marécages. Et la façon de penser la ville, elle devait être complètement différente, la façon de planifier la ville, peut-être plutôt avec des grands canaux, avec une autre réflexion qui pouvait quand même avoir un dialogue avec ces aspects naturels plus importants, mais. Ce qu'on a fait plutôt, c'est remblayer, c'est couvrir ces lagunes, ces marécages. Et bon, on paye les prix, effectivement, pour ces questions-là, actuellement. Et en ce qui concerne des compagnies privées pour les rapports avec l'environnement, je crois qu'il y a quelque chose, on n'a pas le temps de développer, mais les favelas jouent un rôle extrêmement important dans la ville. Et il s'agit quand même de quelque chose d'assez structurant en ce qui concerne même économiquement, politiquement, bon, symboliquement. Et elle est depuis toujours très liée à la question du risque, dans un large sens, dans plusieurs sens. Et alors, il y a quand même plusieurs démarches, notamment des compagnies privées, mais même par rapport à l'État, de légitimer, par exemple, l'occupation des zones considérées non édificatives, des zones proches du parc, dans des collines, par exemple, des lotissements fermés assez riches, en disant très clairement que c'est mieux d'occuper ces zones par ces genres de construction que laisser que les favelas y occupent. Alors, il y a une question assez importante aussi de jouer avec les discours de l'environnement contre le favela. De toute façon, dès qu'on va voir, il y a toujours. Et la peur qui entre la ville, que les favelas sont en train de détruire les parcs, les colis, bon, la forêt, mais c'est là, c'est pas très récent, mais depuis plusieurs décennies. Et alors, pour la question environnementale, politique, sociale, c'est clair qu'il y a une articulation très claire dans ces contextes-là. Et pour les favelas, je pourrais citer encore d'autres questions, pas seulement la question du risque strictement, mais je m'arrête pour dire un cas qui a eu quand même un impact important, c'était la construction des murs autour des favelas en 2006-2007, si je ne me trompe pas. Et de nouveau, les discours étaient très clairs liés à la question environnementale. Alors, il fallait absolument encercler les favelas autour du parc. Et, bon, les discours, on ne disait pas d'encercler les favelas, mais encercler les parcs. En fait, non, on est en train de protéger les parcs. On a construit quand même un mur dans la favela Santa Marta de 3 mètres d'hauteur. Mais là, lorsqu'on va analyser de manière plus précise la logique de ces murs-là, probablement il y avait deux. La question immobilière, c'est très clair. Il faut à tout prix essayer de limiter ces constructions, essayer de limiter les favelas, l'expansion, que ce soit verticale ou horizontale. Il y avait aussi une question liée proprement à la sécurité publique, parce que plusieurs narcotrafiquants, il y avait quand même des possibilités de fuite par les parcs. Alors, il y avait toute une question autour de ça, de vraiment limiter, contrôler, déterminer de nouveau avec la question de l'environnement. Ce que c'est très intéressant, c'est que bon, les faveladoz, ils ne sont pas du tout passifs, ils sont pragmatiques. Alors, il y a quand même une articulation politique. Par exemple, en ce qui concerne les murs, il s'est arrêté dans un seul. Et dans les cas de Rossing, ils voulaient aussi construire un mur, mais au lieu de mur, ils ont créé quand même un parc écologique qui sert actuellement comme limite. Mais bon, c'est mieux que non, mais c'est les limites très claires. À partir de ces parcs-là, on ne peut plus construire.